Le roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesía no te aiuta a vivere, allora fate qualcos'altro.
Shiri e Shamzayadam John Mercer, Bashka Bishay.
L'émission quinzomadaire de la BIP, Brigade d'intervention poétique, Michel Armat et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus.
Rukuni Shenwei Shugu, Punan Zhang Shenguo Guan Jintai, Najo Ching Wangli Shugu.
Ha a költészet nem éltet, fordulj más felé.
Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanc, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, vous êtes autre chose.
Eugène Guillevic, Guillevic qui veut dire d'ailleurs en breton « petit diable » est l'objet de cette émission et c'est à lui que nous rendons hommage à travers tous ses beaux textes. On l'a laissé dans son parcours de vie au début de la guerre, donc il vient de publier ce qui va le faire connaître, ce grand recueil qui s'appelle « Terraqué », un mélange de terre et d'eau, traqué aussi peut-être comme il va l'être, enfin comme tout le monde va se sentir un petit peu dans cette guerre qui a commencé. Donc on a vu qu'il était mobilisé, qu'il avait d'ailleurs suivi dans ce parcours de mobilisation Marcel Arlan, avec qui il a lié amitié. Il est toujours dans l'administration, mais il va faire un court séjour de militaire. On finira d'ailleurs par une petite anecdote là-dessus. Hein, et il va être approché. Alors il raconte l'humiliation pour lui que c'est d'avoir dans son bureau un portrait de Pétain sous lequel il travaille. Il est maintenant à Paris. Il travaille rue de Rivoli dans un espèce de bureau placard qui ressemble un petit peu à un cercueil, hein, tout en noir, où de temps en temps il va s'installer dans le bureau des voisins pour pouvoir avoir un petit peu d'air. Il ne peut pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a un tel bruit dans la rue que c'est invivable. Et il va rencontrer, à cette époque, Éluard. Hein. Il va rencontrer aussi un certain nombre d'autres poètes, Lescure aussi, et Segers, qui va l'inviter à publier des textes dans ce qu'on a appelé les poètes de la résistance. Hein.
Avec Rousselot, avec Cadou.
Avec Cadou, donc il va s'approcher aussi de ces poètes qu'on appelle l'école de Rochefort, hein, Jean Bouillet également. Et puis, il y a toujours cette histoire assez ambiguë avec Drieux-La Rochelle, puisqu'il reste non pas ami, on peut dire.
Non, mais il dit que c'est un ennemi.
Mais il a une relation en même temps très franche avec lui. Quoi. Il lui dit parfois, comment tu peux écrire des choses pareilles? Et il dit son étonnement devant la virulence des textes de Drieux-La Rochelle, qui lui-même n'est pas aussi virulent dans ses discussions avec lui. Bref.
Mais il aime l'écriture de La Rochelle, de Drieux. Et voilà. Drieux, donc, l'aide à entrer à la NRF.
C'est grâce à Drieux aussi que va être publié Terraqué. Mais lui, donc, c'est un ennemi, puisque depuis peu, il a adhéré au Parti communiste par le biais d'un ami à lui qu'il a rencontré en Alsace, qui s'appelle Adler.
Adler, un prof de maths.
Voilà, et il va rester d'ailleurs assez fidèle à son engagement au Parti communiste jusque tard, quoi. C'est-à-dire il ne le quittera en fait qu'au moment de l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques. Voilà.
D'ailleurs, sur le Parti communiste, il dit que c'est excessif, mais néanmoins son adhésion a répondu à un besoin de synthétiser, de cerner.
Oui, alors ça, on en reparlera parce que c'est tout un... Enfin, à travers cette histoire de Guillevic, c'est aussi l'histoire de l'immense majorité des poètes dans l'entre-deux-guerres, d'avoir été embarqué dans la mouvance, communiste.
Ben, il entre au communisme, mais en même temps, il entre dans la résistance, hein, dont il est chef de groupe.
Alors là-dessus, peut-être tu connais plus de choses que moi. sur ses activités de résistant, moi j'ai peu de choses parce qu'il est assez discret sur la chose.
Il est discret, en fait il ne fait pas de résistance armée comme il dit, mais bon, il fait des faux papiers, il passe la ligne de démarcation pour aussi faire traverser des écrits, pour aider des juifs aussi à se cacher.
Oui, il y a cette histoire, enfin à l'époque il est amoureux d'une femme juive, et donc il dit quand même que la guerre est à la fois une épreuve physique, ne serait-ce qu'à cause de la faim, hein, puisque tout le monde mange très peu. Il dit on a mangé que des rutabagas pendant presque un an. Il reçoit quand même une fois un colis d'un ami de la campagne qui lui envoie, qui se rappelle de lui et qui lui envoie quelques saucissons sur lesquels il va vivre pendant une semaine. Et puis il y a cette angoisse perpétuelle qui est liée au sort de cette femme qu'il aime, qui est juive, qui se cache et dont il ne sait jamais s'il va la revoir, puisque les nouvelles sont toujours des nouvelles de disparition autour de soi.
Et il raconte par exemple aussi, on s'est ensuite replié sur Terrasson en Dordogne, encore une autre équipée au cours de laquelle je me suis montré plus courageux.
Là, on revient un petit peu en arrière, il s'agit de son bref passage à l'armée au début de la guerre.
On s'est ensuite replié sur Terrasson en Dordogne, encore une autre équipée au cours de laquelle je me suis montré plus courageux que je ne le croyais. Le train qui évacuait toute la direction de l'intendance, tout le personnel civil et militaire, officiers, femmes, enfants, des capitaines, des colonels, s'arrête en gare de Châteauroux. Il y avait alerte et des avions nous mitraillaient. Voilà tous ces gens qui descendent du train et se mettent à courir dans tous les sens sur le quai. Je me dis, ils vont se faire tuer. Alors je descends à mon tour et je crie, à mon commandement, direction abri souterrain. Ils y sont tous allés, personne n'a été blessé. Moi qui n'étais qu'un aspirant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien non, ils m'ont fait l'honneur de me désigner pour passer en revue les soldats le 14 juillet 1940.
Passez entre les fleurs et regardez. Au bout du pré, c'est le charnier. Pas plus de sang, mais bien en tas. Ventre d'insecte un peu géant, avec des pieds à travers tout. Le sexe est dit par les souliers. Les regards ont coulé sans doute. Eux aussi préféraient les fleurs. À l'un des bords du charnier, légèrement en l'air et hardie, une jambe de femme, bien sûr, une jambe jeune, avec un bas noir, et une cuisse, une vraie, jeune, et rien. Rien. Le linge n'est pas ce qui pourrait le plus vite. On en voit par là, durci de matière. Il donne apparence de chair à cacher qui tiendrait encore. Combien ont su pourquoi? Combien sont morts sachant? Combien n'ont pas su quoi? Ceux qui auront pleuré, leurs yeux sont tout pareils. C'est des trous dans des os ou c'est du plomb qui fond. Ils ont dit oui à la pourriture. Ils ont accepté. Ils nous ont quittés. Nous n'avons rien à voir avec leur pourriture. On va, autant qu'on peut les séparer, mettre chacun d'eux dans un trou à lui, parce qu'ensemble, ils font trop de silence contre le bruit. Si ce n'était pas impossible, absolument, on dirait une femme comblée par l'amour qui va dormir. Quand la bouche est ouverte ou bien, ce qui en reste, c'est qu'ils ont dû chanter, qu'ils ont crié victoire, ou c'est le maxillaire qui leur tombait de peur, peut-être par hasard, et la terre est entrée. Il y a des endroits où l'on ne sait plus si c'est la terre glaise ou si c'est la chair, et l'on est peureux que la terre partout soit pareille et colle. Encore s'ils devenaient aussitôt des squelettes aussi nets et durs que de vrais squelettes et pas cette masse avec la boue. Lequel de nous voudrait se coucher parmi eux une heure ou deux, simplement pour l'hommage? Où est la plaie qui fait réponse? Où est la plaie des corps vivants? Où est la plaie pour qu'on la voie, qu'on la guérisse? Ici ne repose pas, ici ou là, jamais ne reposera ce qui reste. Ce qui restera de ces corps-là.
Nita, ce n'est pas sous les bois qu'on trouvera son corps, ni dans l'herbe, et jamais la rosée ne saura ce que devint un corps si doux quand il est mort, et qu'il paraît dormir en éprouvant un peu la patience de l'herbe. Ce n'est pas sous les bois qu'on trouvera son corps, dans aucun bois, dans aucune ombre, et de toutes les terres, dans aucune. C'est fumée qu'elle est devenue. Je lui disais un jour, en ce temps de l'horreur, à réveiller les vieux couteaux, les vers d'Apollinaire. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Elle a souri alors comme elle souriait en ce temps de l'horreur. Elle a redit ses vers et m'a quittée plus forte en ce temps de l'horreur où la mort l'arrachait à chaque mètre des trottoirs. C'est aujourd'hui qu'est mort Pétain, dont la police l'arrêta voici 8 ans. Elle était juive.
On y est. On ne sait pas où, mais on y est. Bien encerclé, bien enfoncé, tout à fait cerné, même par l'espoir d'en sortir. Il y en a peu qui crient. Beaucoup s'y font, et certains exhibent leur triomphe. Et tombe quand il se retrouve seul, sans spectateur. On veut toujours aller au-delà. Au-delà de quoi, on ne sait pas. Au-delà de ce qui est en soi, au-delà de ce qui n'y est pas, au-delà de quelque chose qui n'existe pas. On s'enfonce. On s'enfonce dans ce qui n'a pas de corps. Ne laisse pas remonter celui qui l'englobe. On s'enfonce dans ce qui n'a pas de paroi ni de fond. On s'enfonce dans le temps. Que faut-il donc faire pour que ce jour devienne un lieu où le temps se comporte en ami, où même les murs donnent de l'ouverture, où l'on se régale de l'espace comme d'une pomme, où les angles se plaisent à célébrer la sphère, où la source peut jaillir partout, à tout instant, où tout, sauf toi, a comme souci de toi, qui t'oublie dans la profusion. Enfant, tu rêvais que rien n'allait plus changer, qu'un brin d'herbe resterait là, pareil à lui-même, figé dans un instant d'éternité, sous la cloche du firmament, porté par la lumière, émané de quel au-delà?
Nous sommes en compagnie d'Eugène Guillevic, en tout cas en compagnie d'Esprit, hein, et on vient d'entendre ces trois textes qui sont, qui, disons, expriment bien la lourdeur de l'ambiance pendant la guerre, où il est résistant, tout en poursuivant son travail d'administrateur. Il est toujours dans son bureau rue de Rivoli. Il est adhérent au PC, on sait qu'il était sympathisant au PC déjà pendant la guerre d'Espagne. Il est résistant également, comme on l'a dit dans le micro précédent. Quand la fin de la guerre arrive, il va être, donc avec les communistes, il va être invité par François Billoux à être chef adjoint de son cabinet, puisqu'il rentre au ministère de l'économie. Et il va parler de cette période comme une période extrêmement... Enfin, c'est celle où il découvre ce que c'est que d'être un homme d'action, c'est-à-dire de s'occuper de dossiers qui ne lui laissent plus du tout le temps d'écrire.
Il va créer une cellule du PC au ministère de l'économie nationale, et ce qui lui vaudra d'ailleurs de ne pas avoir d'avancement.
Oui, c'est-à-dire que ça, c'est déjà une gamelle qu'il traîne depuis un certain temps, hein, puisque quand il est au ministère sous François Billoux, ça n'est pas une gamelle tant que les communistes sont dans le gouvernement, mais ça va bientôt le devenir. D'ailleurs, de toute façon, quand le gouvernement Pinet va arriver, il va être systématiquement refusé au grade d'inspecteur général à cause de ça. Donc il va, d'ailleurs, on a déjà un peu anticipé la chose, il prendra sa retraite beaucoup plus tôt en profitant d'un décret de De Gaulle.
Mais comme il est considéré comme subversif, qu'on lui donne très peu de travail à faire, en fait, ça lui permet aussi, du coup, de lire. Et il, par exemple, il a pu lire tout Proust au bureau.
Oui, ça, c'est dans la période donc, qui va suivre la période communiste. Hein, parce qu'il y a quand même 2 années, et même il est sollicité pour d'autres postes et il va les refuser. D'ailleurs, il a cette réplique qui est assez belle. On lui propose de prendre en charge des dossiers très importants. Il dit, écoutez, ça, d'autres gens peuvent le faire, mais mes poèmes, il n'y a que moi qui pourrais les écrire. Je préfère écrire des poèmes. Donc, il y a cette espèce de fidélité à l'écriture tout au long de sa vie.
Si tu permets aussi, oui. il a dit par ailleurs à un autre moment, antérieurement, si je dois choisir entre
l'action militante et la poésie, voilà. je choisirai l'action militante. Voilà. Mais alors ça, peut-être on va en parler plus tard, parce que ça c'est un peu cette énorme parenthèse que va supposer pour lui son engagement militant. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il est toujours quand même aux côtés de l'Union soviétique. Hein. Il va le dire souvent, il écrit même un texte au camarade Staline, dont il s'explique après en disant bon, évidemment, il ne savait peut-être pas tout ce qui se passait en Union soviétique à l'époque.
Et qu'il a regretté quand même.
Voilà. Ouais. Ce qui l'occupe beaucoup pendant toutes les années qui suivent le ministère de Billoux, c'est les affaires économiques d'Afrique du Nord, puisqu'il est chargé par le ministère de l'économie de gérer tous les échanges commerciaux en Afrique du Nord. Et là, il va aller très très souvent en Algérie, au Maroc. Enfin, il va s'occuper aussi de tas de contrats économiques. Il va rentrer là dans une période, une longue période qu'il qualifie lui-même d'une période de sécheresse, hein, dans laquelle son engagement...
Sur la guerre d'Algérie, comme tu en as parlé, il a pris position aussi, évidemment, contre la guerre d'Algérie.
Oui,
il a milité vers la fin, voilà.
Mais dans toutes les années donc, qui vont, en gros, de 47 à 56, il est complètement pris par ces histoires, on va dire, économiques. Et à côté de ça, il se range aux côtés d'Aragon dans une écriture beaucoup plus sage, on va dire. Il s'adonne complètement à la traduction parce qu'il connaît beaucoup, beaucoup de langues. Il va notamment traduire Attila Joseph, auquel on a déjà consacré une émission. Et il va aussi se ranger un peu sous la... on ne sait pas si c'est sous la houlette ou si c'est lui-même qui en a pris l'initiative, à une écriture très classique de sonnet.
De sonnet, oui.
Et puis, tout d'un coup, tout va rejaillir avec son attachement à Carnac, à la terre bretonne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il renouera avec cette écriture qui est profondément la sienne.
La maison d'en face est son mur de briques. La maison de briques et son ventre froid. La maison de briques où le rouge a froid. C'est peut-être au-dessus du gouffre du plus rien et du noir attendu à l'entrée des forêts. Peut-être aussi devant des choses plus amères. La délivrance ou la torture avant demain. Cette manie encore aux doigts roses et nourris, désireux tous les jours des caresses et du jeu. De plier, déplier, comme il ferait du temps, un fil de fer trouvé, long pas plus que la pipe, qui prend presque des formes où pouvoir s'agripper. Dos d'un cheval, profil de chaise ou de bouteille, ou bien la lande tombant à pic sur un espace où pas un œil ne voudra voir.
Le chant, c'est comme l'eau d'un ruisseau qui coule sur les galets vers la source. C'est la promesse de la source au soleil.
Le chant ne se soucie pas de savoir s'il arrive à son heure.
Qui entend le chant se dit « j'existe ». Je crois que je suis sans plus de limites.
Pendant le chant, on ne vieillit pas.
Le chant ne pourchasse que le néant et ses acolytes.
Il y a des plaines où le chant n'est qu'une seule note, vibrant à peine.
Un chant peut s'éteindre comme un arbre s'éteint, mais le chant continue comme dure la forêt.
Le chant est là. Tout en allant son chemin, il reste là. Il dit que notre vie pourrait être plus et mieux la vie.
Chacun va chantant sa différence et voulant la garder, chacun ayant besoin d'entendre d'autres chants pour être sûr du sien.
La vie es la esperanza, el regalito, mi viña, mi esperanza y alza la puerta y compra el vino que es muy bueno. El ubero.
Un merle quelque part parle de ton visage, posé, lune brûlante au fond du bruit que fait le dur travail des insectes vieillots. Et la brique, oubliée dans l'herbe pour durer, se réchauffe à ta peau, tremblant sur les prairies, sur les ombelles consumées par leur frêle tendresse, dans l'effroi de ta beauté de mer, sereine. Sur le monde.
Habitation. J'ai logé dans le merle. Je crois savoir comment le merle se réveille et comment il veut dire la lumière. Du noir encore, quelques couleurs, leur jeu lourd à travers ce rouge qu'il se voit. J'ai fait leur verticale avec les blés. Avec les temps, j'ai tâtonné vers le sommeil toujours tout proche. J'ai vécu dans la fleur, j'y ai vu le soleil venir s'occuper d'elle et l'inciter longtemps à tenter ses frontières. J'ai vécu dans des fruits qui rêvaient de durer. J'ai vécu dans des yeux qui pensaient à sourire.
Si la feuille tremble à ton niveau sur le noisetier, va savoir si c'est à cause de la brise que toi, tu ne sens pas, si c'est à cause
de son tremblement intérieur, parce que ce n'est pas facile d'être feuille, de durer combien de temps, va savoir si ce n'est pas à cause de toi, si ce n'est pas ton tremblement qui l'a saisi.
Ce texte, beau texte d'Eugène Guillevic, dont on suit le parcours de vie. Guillevic, donc, est toujours dans l'administration et il mène cette... Maintenant, il commence à être largement reconnu comme poète. On était en train de dire qu'il passe par une espèce de période de sécheresse un peu, qu'il va reconnaître lui-même d'ailleurs, en disant qu'après avoir à un moment pris l'option qu'il valait mieux être militant que poète, il va se rendre compte qu'il est, comme lui-même le dit, un arbre sans racines. Et c'est grâce au retour au vers libre et à l'écriture de Carnac et de Sphère qu'il va renouer, comme on l'entendait d'ailleurs les sœurs Guadec chanter ce chant, il va renouer avec sa Bretagne natale et avec ses sources d'inspiration. On devrait parler aussi de cette tendresse qu'a Guillevic pour les femmes. Lui qui a été privé d'affection dans toute sa jeunesse par une mère extrêmement dure, jugeuse, culpabilisante, comme il le dit souvent.
Dont il dit que la première douceur qu'il a eue, c'est à travers les mains d'une jeune fille de 12 ans qui l'accompagnait à l'école et dont il se rappelle encore le nom, elle s'appelait la Malfée.
Oui, et d'ailleurs, il a une grande, grande mémoire des noms, et il va aussi, bon, on a dit, donc il s'est marié, il a eu deux enfants, et il a eu beaucoup de femmes, en fait, dans sa vie, il a eu beaucoup d'histoires d'amour, enfin, je pense assez longues, d'ailleurs, il y a eu aussi il y a Clotilde, qui est une sorte d'amour
Voilà, mais qui lui est resté très longtemps, dont il a fait un poème, et il dit aussi que la petite nièce de Marie-Clotilde lui a apporté un jour une photo.
Oui, et puis il y a aussi cette femme juive dont on a parlé, juive roumaine, avec qui
qui s'appelait Columba, qui était la femme du poète Ilari Voronka, qui l'avait présentée à Guillevic. Voilà. Et elle avait fui avec son frère et était arrivée à Paris, et Guillevic donc s'était pris d'elle, ils se sont promenés dans la campagne, etc. Et quand il a voulu écrire aussi sur elle, en fait, il a écrit sur le Rossignol.
Oui, il y a aussi Jacqueline, je crois, qui est la femme qui va lui faire accepter son prénom, parce que, comme il dit, pendant toute une période, il lui fallait couper avec tout ce que sa mère lui avait légué, en particulier son prénom.
Son prénom, c'était Guillevic tout court.
Voilà, et ensuite, il va rencontrer Lucie, qui est la femme qui va l'accompagner, je crois, jusqu'à la fin de sa vie. En 97, donc Lucie Albertini qui deviendra Guillevic et qui l'accompagne non seulement dans ses voyages géographiques, notamment en Asie, mais aussi dans son travail poétique et à qui on doit d'ailleurs la participation aux entretiens réunis dans ce très beau livre qui s'appelle « Vivre en poésie ».
Alors pour dire son écriture, quand il part du Rossignol pour Columba, il cite aussi une amie qui lui avait demandé un poème érotique et il dit « Je n'ai pas fait de poème érotique, mais j'ai écrit un long poème sur l'étang ». Et en fait, il dit que son écriture est érotique, toute son écriture est érotique, elle est charnelle.
Oui, on peut dire que toute la nature est une métaphore de l'amour charnel. Il y a quelque chose de sacré, un attachement au sacré très très fort. Il cite la façon universelle dont cette chose peut toucher les gens, notamment dans deux lettres. Il raconte toujours dans Vivre en poésie, un passage qui est étonnant, qu'on n'aura pas le temps de lire, mais simplement comment il reçoit une lettre un jour d'un homme qui lui dit... Qu'il a lu un texte de lui, je crois que c'est En cause, et que ce texte a bouleversé cet homme. Bon, il essaye, et la lettre est signée en provenance de la prison de Fresnes. Comme Guillevic est ami à l'époque avec Paul Chollot, qui est à la fois poète et commissaire de police, il essaye de savoir qui est cet homme. Et il apprend, je le cite, « J'ai ainsi appris qu'il s'agissait d'un homme d'une quarantaine d'années, arrêté en flagrant délit de pose de plastique pendant la guerre d'Algérie. Ce membre de l'OAS avait combattu dans la LVF sous l'uniforme SS. Il avait donc été nazi et c'était lui qui me disait que ma poésie l'aidait à vivre. »
Elle marche, l'air la porte. Elle ouvre un espace rendu plus présent.
L'air est habité de fleuves qu'on ne voit pas.
Elle est leur océan. La pesanteur est en elle, juste ce qu'il faut pour que la terre la retienne. Elle craindrait plutôt la lumière trop forte.
plus forte que celle que proclame son corps. Elle a de l'arbre ce que celui-ci tait de lui-même.
Porteuse d'assez de douceur pour pouvoir la cacher.
Elle a la voix des oiseaux quand le printemps les entretient.
Elle possède ce qui fait qu'on la regarde.
Couler l'eau du ruisseau sans jamais se lasser.
Sans jamais se lasser. D'elle s'inspirent les fleurs, les coraux, les levées du soleil. Elle a du serpent la ductilité.
Et ce qu'il faut de ruse pour être ce qu'on est. Elle sait qu'elle ne sera pas toujours la même.
Elle fait comme si. Elle est un besoin qu'a le mystère de se manifester.
Elle est la jonction d'éléments dont elle sent qu'ils la traversent. Elle marche vers sa consécration par ce qui l'environne et l'environnera.
Quand elle est là, l'ombre se fait pénombre.
L'arbre est enraciné dans la terre.
Elle est enracinée dans le centre.
Elle n'est pas si sûre d'elle-même. Parfois, son pouvoir la domine.
Quand elle agit, elle se rêve.
Toujours en lutte, mais contre quoi ? Elle-même ne le sait pas.
Quelque chose qui fouille l'espace et se nourrit de la lumière. N'importe où, elle marche. C'est son sentier.
J'embrasse tes genoux, j'arrive. Glorieux le tremblement, au moment de l'approche, ta lèvre, l'une, l'autre. Dire qu'il y a des moments où pour toi je suis plus léger que l'air. Alors seulement l'horizon a disparu. C'est partout le centre et j'y suis, en toi, le monde se résume sans se réduire. L'odeur de ton humus, à passer par des mers chargées de bactéries, tu racontes la houle des mers, en voie de chercher à se pacifier. En toi, je suis, mandataire, de quoi ? Une de tes voix me vient de ces eaux traversées avant le temps de la parole. Les marées, le glissement des roches, le vol des goélands comblent tes courbes pour mon usage. La reptation rythmée vers le royaume sans horizon. L'audace de donner à nos corps ce que nous savions, plus béant que n'importe quelle définition. Comme la lave rampe sous la terre, se rassemble, arrive à l'ouverture, se donne. De ces douceurs qui font crier. Passage fait, toujours à faire, vers l'origine, vers sa poussée, son explosion. Comme le Gulf Stream, à travers les océans qui le réclament.
J'ai vu la flamme, elle est partout. Dans ce que je regarde, quand pour de bon je le regarde. Elle y demeure et bouge à peine plus qu'un mot. Dans le morceau de zinc, le panneau de l'armoire, le crayon, la pendule et le vin dans les verres. Dans le pot de tabac, dans l'émail du réchaud, le papier sur la table et le linge lavé, dans le fer du marteau, dans la conduite en cuivre, dans ton genou plié, dans tes lieux plus cachés. Parfois dans l'âtre, la voilà qui se dévoile, se proclame et va périr. Ailleurs, tout comme d'autres, elle cherche sa place. Elle cherche son champ dans la chair du silence. Brûle du temps qui vient, refuse le sommeil, fait son travail de flamme, nous sauve et veut sourire.
On n'en finit jamais avec la lune. On a beau la regarder, la peindre, écrire sur elle, lui parler, essayer de la caresser, lui tourner le dos, l'insulter. Quand elle est là, elle nous verse son lait. Quand elle n'y est pas, son lait nous manque.
Fouillis d'étoiles. Parfois les nuits sont si claires qu'elles sont comme un appel. Il peut y avoir tellement d'étoiles que dans ce fouillis solennel, à peine si tu distingues ça et là quelques étoiles, celles qui sont condamnées.
Ce n'est pas facile d'être un mur, tout seul, entre deux propriétés. De temps en temps, le vent, un oiseau. Le mur ne peut écrire qu'au ciel, au tilleul. Mais il sait, lui, qu'il écrit en incluant sa base.
Corps de chair hésitante au regard de chevreau, dans les hauteurs de l'air, où le métal n'est plus que son. Le corps de l'eau se fait. Il se fait de chair chaude, au soupir des cristaux, du sel abandonné, sur un fond rouge et vert, où l'appel incendie les affres de l'humus. Dans les paumes des chemins, dans l'éclatement de l'herbe, ton visage tout défait d'aimer. Tes mains au soleil couchant, pétrissant l'argile, caressant les coups des chiens mouillés de la boue des pâturages. Écoute le pollen des rochers, la brie au fond de la mer. C'est ta paume qui s'épanouit. C'est la peau de tes seins tendue comme une voile au soleil couchant. Écoute encore. Ton pollen au pollen des rochers se mélange sur mer. Ton ventre amène et retire les marées. Ton sexe occupe les sables chauds des profondeurs. Sans fin, la forêt creuse la terre sèche où la préhistoire est restée couchée. Or, glou-glou du sang aux écluses du temps, un merle hébété pressant son passé, sifflant la forêt, la montée des sèves. Au dehors, l'arbre est là, et c'est bon qu'il soit là. Signe constant des choses qui plongent dans l'argile. Il est vert, il est grand, il a des bras puissants. Ses feuilles, comme des mains d'enfant qui dort, s'émeuvent et clignent. Dans les maisons, la lumière par instant vient des étangs qui creusent le vallon, entre les blés, les sapins et les vignes. Des éclats de soleil, comme des éclats de vitre. Oui, l'eau coule et l'arbre attend. Elle coule au creux de la terre. Elle coule dans la chair de l'arbre. Et l'arbre attend. Tous les suintements sont lavés dans la mer, et l'homme peut le soir retrouver dans un lit le goût frais de la mer, entre des cuisses ouvertes.
Nous sommes donc en compagnie d'Eugène Guillevic, dont on entend les très beaux textes, textes d'amour, textes érotiques à travers les petites choses du cosmos, la pierre, l'herbe, l'insecte. Oui, Patrick, tu venais nous dire que, par quel biais Guillevic est entré à l'ONU.
Eh bien, en 98, une femme, Nicole Rouvet, qui est une militante ouvrière en Auvergne, doit recevoir un prix pour son action contre la misère. Et des vidéos présentent chacune des lauréates et c'est copieusement applaudi. Et puis pour elle, il y a un documentaire de France 3 qu'elle n'a pas vu, qui est traduit en anglais, dans lequel revient tout le temps le mot « activiste ». Alors le jury, après, est plutôt refroidi, il n'y a rien. Et elle, du coup, elle prend la parole, elle explique qu'elle n'a pas vu cela. Et puis, au lieu de faire tout un discours, elle dit un texte de Guy Vic, « Le feu chauffe, c'est naturel. La vague revient, c'est naturel. » Le rameau bat, c'est naturel. Des hommes chantent, c'est naturel. Ils chantent leur misère, c'est naturel. Et leur espoir, c'est naturel. C'est leur misère qui n'est pas naturelle. Et là, Kofi Annan, avec les autres, l'applaudissent à voilà. Tout rompre.
Absolument, oui. Guillevic dit aussi, les hommes ont fait toutes sortes de choses impossibles, comme de transporter le son à travers la planète, comme d'aller sur la Lune, mais ils n'ont pas fait les choses possibles, c'est-à-dire d'arrêter la faim et arrêter les guerres. Voilà. Il y a quelque chose de très simple et d'extrêmement solidaire avec toute l'humanité. On peut dire aussi que ce Guillevic, donc, qui n'a jamais cherché à publier de façon forcenée, comme l'ont fait beaucoup d'autres poètes, hein, que sa gloire est venue d'une façon tout à fait naturelle aussi, ça serait le cas de le dire, Guillevic est publié et c'est naturel, hein, il va en fait, il va avoir une renommée internationale, il est traduit dans plus de 50 langues, petit à petit.
Et notamment, il est invité en Asie, il va passer de longs mois à parcourir l'Asie.
On avait dit qu'il prenait sa retraite très tôt, parce qu'il en avait tellement, enfin, vu que toutes les promotions lui avaient été refusées, il profite d'un décret gaullien qui donne la possibilité à certains administrateurs de se retirer avant l'âge, et donc à 56 ans, il part à une pré-retraite dont il va être très heureux, puisqu'elle va durer de 56 ans à, je crois, vivre en poésie. Il en a 72 et voilà. Il est loin d'être mort encore.
Et là, il n'est plus obligé d'avoir deux vies séparées, celle sa vie professionnelle et puis sa vie d'écrivain.
Voilà, il va d'ailleurs beaucoup se consacrer à la défense des écrivains, à travers le Centre National du Livre, exactement. L'Union des écrivains, etc. Et puis, comme tu disais, il va beaucoup voyager et ça va le conforter dans une espèce de conscience mondiale, enfin de la solidarité humaine. Il va notamment découvrir l'Asie. Il fait un très long voyage au Japon.
En fait, la plupart du temps, il ne va pas visiter les villes. Bon, il a affaire aux hommes, il a affaire aux gens, mais il ne va pas visiter les villes. Il reste dans sa chambre où il écrit et il lit. Il lit,
il lit Proust dans sa chambre à Tokyo.
Voilà. Et puis simplement, il va quand on vient le chercher et il dit, de toute manière, ce dont je me suis aperçu, c'est que partout où je suis, je transporte Carnac avec moi.
Je suis allé sur la plage. J'ai marché le long des vagues. Je vais et je marche pour être compagnon de l'océan, avec l'espoir qu'il m'aidera à trouver comment écrire sur lui, et sans doute me connaîtrai-je mieux alors. Je vois bien que j'existe pour l'océan, alors qu'il me traduise en palourdes, berniques, en vagues, en rochers. Je n'en serai pas amoindri. Bien au contraire. L'océan lui aussi écrit et ne cesse d'écrire. À chaque marée, il écrit sur le sable. Il écrit tous les jours, toujours la même chose. C'est sans doute ce qu'il doit se dire, la même chose. Et pourtant, qui s'en fatigue ? Ne le jalouse pas, c'est l'océan.
Qu'est-ce qu'il y a donc de plus rond que la pomme ? Si lorsque tu dis rond, vraiment c'est rond que tu veux dire, mais la boule à jouer est plus ronde que la pomme. Mais si, quand tu dis rond, c'est plein que tu veux dire, plein de rondeur et rond de plénitude, alors il n'y a rien de plus rond que la pomme.
Si j'étais la rose qui s'offre à mes yeux, qu'est-ce que je ferais ? Rien d'autre, sans doute, que ce que je fais maintenant, être, simplement être. Éprouver plus fort le passage du temps, accepter que tombent des pétales.
Alors celle-là, je vous la chanterai, je serai obligée de me référer au texte parce qu'elle est nouvelle, elle est d'hier soir.
Je ne la sais pas.
Alors, je ne la sais pas très bien, mais je sais la mélodie. Hein ?
On y va ?
Oui.
On me reproche aussi de n'avoir pas aimé ceux qui s'appellent aimer, qu'ils appellent.
nous ferions si nous manquions d'amour? Pas grand-chose. On le chercherait. C'est déjà ça, l'enfant. On chercherait et on trouverait. Oui, oui, il faut espérer.
Nous entrions parfois dans des cafés secrets sur le bord de la route. Il pouvait y avoir une marche à descendre. Il y avait toujours une table à choisir, dans le silence ou le murmure des paroles. L'ombre y était la plus ancienne des habituées. Elle avait occupé toutes les places, longuement. Le soleil était là, en accord avec elle, se posait sur un front, sur ta main, sur un verre, et s'en allait bientôt comme un dieu qu'on oublie. Pendant la halte qui semblait s'éterniser, de l'expérience nous venait, et nous sortions toujours de ces cafés secrets, pas tout à fait les mêmes qu'en entrant.
Le répit n'était pas pour nous. Le mouvement est notre halte. Comment être plus près en étant au-dedans? L'éternité est un espace ouvert, un point où s'enfermer. Nous avons appris l'un à l'autre ce qu'il est. Il n'y a pas d'oiseau plus épervier que nous. Hasarder en toi ses frontières, jamais sans espoir. En s'unissant longtemps, nos lèvres jouent pour nous la fièvre des rochers qui n'émergeront pas. Délivre-moi de ce délire dont jamais je ne me délivre. Notre allaitement est celui des marées, c'est celui du soleil vers son plus grand éclat, c'est celui de la nuit lorsque le jour menace. Es-tu bien sûr de n'avoir pas dormi en dehors de ton corps pendant ce long moment où la mémoire parfois s'efface? Reste, reste, ne t'en va pas toujours, même tout contre moi, avec les vents, avec les fleuves, avec tous les courants qui sillonnent la terre. Refais les mouvements de la vie quotidienne. Sois ce corps qui revient à lui, moissonné, en attente de l'instant qui s'annonce.
Carré. Chacun de tes côtés s'admire dans les autres. Où va sa préférence? Vers celui qui le touche ou vers celui d'en face? Mais j'oubliais les angles où le dehors s'irrite au point de t'enlever les doutes qui renaissent. Losange. Un carré fatigué qui s'est laissé tirer par ses deux angles préférés, lourd des secrets. Losange maintenant, il n'en finira plus de comparer ses angles. S'il allait regretter l'ancienne préférence. Angle droit. Sans colère, attendant ce qu'un hasard lui donne, au plus profond de soi, amassant des reliques que le moindre des vents jette comme à des gouffres.
Dans le domaine que je régis, on ne parle pas du vent.
L'étang.
Le rôle de sentinelle est confié aux arbres.
Avancez, avancez, avec ou sans vous.
Les grenouilles ne sont pas indispensables. Les allées ne sont pas fatalement tracées.
Si c'est pour demander pourquoi le silence, vous n'êtes pas d'ici.
Dans le domaine que je régis, le cadastre est oublié.
Le dehors doit exister.
Dans le domaine, les buissons ne se plaignent pas.
L'oiseau traverse. Reste l'oiseau qui s'est trouvé indispensable.
N'attendez pas que vienne la dame à quelques fenêtres.
L'eau, dans l'étang, est occupée à garder le temps.
Des haies. Que fait un regard que rien n'arrête?
Rien ne caracole dans le domaine, sauf peut-être au plus grenu des pierres.
La lune, soit qu'elle apparaisse pour être éconduite.
Dans le domaine, il n'y a rien qui ne cherche à se rencontrer.
Ah oui, le vent.
Les familles de mon père et de ma mère étaient des... On peut même appeler ça des paysans, tellement ils étaient pauvres en terre, enfin. Et je suis parti de ce paysage, évidemment, aussi bien sur le plan poétique que sur le plan, comment dire, éthique. Je crois que c'est aussi cette terre qui m'a amené à vouloir une vie plus riche, plus grande, plus ouverte. Je crois que c'est de là qu'est partie ma vue sur le monde, mon besoin de changer ce monde, cette société, pour arriver à une société fraternelle, sans misère.
S'achève ces deux heures d'émission consacrées à Eugène Guillevic, poète universel et breton, comme il le rappelait dans cette interview où il évoquait sa terre natale de Carnac. Merci à mes camarades qui m'ont accompagné dans cette émission, Patrick Vendrin, Thérèse Bonetta, à tous ceux aussi de la brigade d'intervention poétique qui ont donné leur voix et qui ne pouvaient pas être là, c'est-à-dire Jean-Claude César, Charo Beltran, Florence Mourieras, Asia de Bascunana, Marc Pastor, Cécile Combredet. Merci aussi aux musiciens qui nous avons emprunté des musiques, Hadouk Trio qui nous donne toujours son magnifique indicatif, John Cage, John Meltcalf qui accompagnait certains des textes, Egberto Gismonti, les sœurs Guadec qui évoquaient les poules bretonnes, et également
Vivaldi,
Antonio Vivaldi. Et qui d'autre encore au secours? Non, je crois que j'ai nommé
Jeanne
tout le monde.
Moreau.
Si, Jeanne Moreau,
Jeanne
évidemment.
Moreau.
Jeanne Moreau, interviewée par Denise Glaser dans les années 60 et qui chantait un texte d'Eugène Guillevic. Voilà, vous pouvez réécouter cette émission en podcast et également sur le site www.michelarvatz.com. À bientôt. Dans le chant de Guillevic. Thank you.